Histoire d'une Parisienne d'Octave Feuillet, deuxième partie. Chapitre 4. Rien ne trouble plus profondément notre être moral que de découvrir les défaillances de ceux qui personnifient pour nous le bien et l'honneur, qu'ils soient nos parents, nos amis ou nos maîtres. Quand nous cessons d'estimer ceux en qui nous avions placé notre confiance et nos respects, nous sommes portés à douter des vertus mêmes dont ils étaient pour nous l'image sensible. Les fausses idoles nous font suspecter la religion elle-même. Ce fut par cette raison, spécieuse mais très humaine, que Madame de Montrescan, après avoir reconnu amèrement l'indignité morale de son amie, tomba dans des doutes et des découragements aussi pénibles que dangereux. D'un caractère trop élevé pour rompre avec éclat une amitié qui lui avait été si chère et qui était si publique, elle n'en sentit pas moins aussitôt que cette amitié n'était plus. Elle avait sans doute aimé chez Madame d'Hermany ses qualités réelles, mais encore plus celles dont elle l'avait louée. L'auréole radieuse qu'elle lui avait mise au front était à jamais éteinte, et même éteinte dans la boue comme un soleil de feu d'artifice. Elle lui eût pardonné un amour, même coupable, qui eût été justifié par son objet. Elle lui eût pardonné Pétrarque, Dante ou Goethe, mais elle ne lui pardonnait pas le beau Saville. Elle ne lui pardonnait pas son affectation hypocrite à le couvrir de ridicule. Elle ne lui pardonnait pas surtout d'avoir tenté de la démoraliser elle-même en lui exposant, avec un orgueil de démon, ses théories perverses. Elle le lui pardonnait d'autant moins qu'elle sentait qu'elle avait à demi réussi et que peu à peu, le poison faisait du chemin dans ses veines. En effet, sous l'impression de ce nouveau désenchantement, Jeanne de Montrescan porta désormais dans le monde moins d'illusions et d'optimisme qu'autrefois. Elle observa d'un œil plus expérimenté ce qui se passait autour d'elle. Beaucoup de propos qu'elle avait traités de calomnie lui parurent vraisemblables. Beaucoup de commerces qu'elle avait jugés innocents lui devinrent suspects. Après avoir vu dans le monde plus de vertus qu'il n'y en a, elle commença à n'y en plus voir du tout. Elle commença à se demander si elle n'était pas vraiment, comme l'avait dit Madame d'Hermany, seule de son espèce, si ses sentiments et ses idées sur la vie, et en particulier sur l'amour, n'étaient pas uniquement le produit d'une éducation artificielle et d'une imagination dupée par les mensonges des poètes. Si, enfin, le plaisir, tel quel, ne valait pas mieux que rien. C'est un spectacle touchant et plein d'émotions que celui d'une honnête jeune femme arrivée à cette étape presque inévitable de la vie mondaine, se débattant dans ses angoisses et sur le point de tomber brusquement d'un excès idéal dans un excès de réalité. Outre les philosophes, il y a toujours bon nombre de curieux pour suivre avec intérêt ces sortes de petits drames. Le monde est plein de gens qui n'ont rien de mieux à faire, qui espèrent d'ailleurs trouver leur compte au dénouement et qui s'ingénient en conséquence pour le hâter. Un des plus ingénieux en ce genre était alors le vicomte de Montélin, fort connu dans la haute société parisienne. Monsieur de Montélin aimait exclusivement l'amour, et c'était déjà, pour lui, un titre aux yeux des dames. Il ne jouait pas, ne fumait pas, n'allait que rarement au cercle. Quand, après dîner, tous les convives mâles se rendaient au fumoir, il restait avec les femmes. Tout cela lui donnait de grands avantages, et il en abusait avec plaisir. Il n'était plus jeune, mais il était encore élégant, beau diseur, avec des airs chevaleresques et un cœur qui était une véritable sentine de corruption. Il avait consacré son existence, déjà longue, à flairer les ménages en détresse et à les achever. C'était sa spécialité. Deux ou trois duels heureux, dont un avec le comte Jacques de Lerne, qu'il avait appelé le requin des salons, avait mis le comble à sa réputation. Dans l'hiver qui suivit la saison passée à Deauville par les deux jeunes amis, il fut évident que M. de Montélin regardait Mme de Montrescan comme une proie à peu près mûre. On le vit resserrer ses liens d'amitié avec M. de Montrescan, en même temps qu'il resserrait le cercle de ses opérations autour de sa femme. Les visites chez elle, à l'entre chien et loup, devinrent plus fréquentes. Il s'arrangea de façon à la croiser au bois le matin et se présenta régulièrement dans sa loge, le vendredi à l'opéra et le mardi aux Français. Dans son profond énervement moral et dans son esseulement désespéré, Jeanne subissait, presque sans se défendre, la fascination qu'exerce presque toujours sur son sexe la volonté fixe et déterminée d'un homme. Elle se sentait peu à peu prise de vertige au milieu des évolutions savantes et continues que M. de Montélin décrivait autour d'elle. Elle ne tarda pas à lui accorder les menues faveurs qui sont le prélude ordinaire d'un abandon complet. Ce fut ainsi qu'elle prit l'habitude de l'informer des visites qu'elle comptait faire, des maisons où il pouvait la rencontrer dans la journée. Elle lui indiquait aussi les heures où il avait le plus de chances de la trouver seule chez elle. Dans les bals, comme il ne dansait pas, elle lui réservait quelques danses assises, c'est-à-dire des occasions de tête-à-tête derrière l'éventail, sous l'ombre d'un rideau ou sous les feuillages d'une serre. Ces manèges, faute de mieux, lui causaient une sorte de trouble qui l'occupait. L'émotion du danger, en agitant ses nerfs, lui donnait l'illusion d'un intérêt de cœur. Bref, la pauvre et noble Jeanne était vraisemblablement à la veille de la plus vulgaire des chutes, quand un nouveau personnage intervint dans l'action. C'était une femme, une vieille femme, la comtesse de Lerne, mère de ce Jacques de Lerne qui avait été blessé en duel quelques années auparavant par M. de Montélin. Madame de Lerne avait toujours été une femme sans principe, mais sans méchanceté, quoique pleine d'esprit. Elle avait eu le bon goût de ne pas devenir prude après avoir été plus que coquette. Son indulgence pour les faiblesses qu'elle avait connues, sa bonne humeur, son bon conseil, sa situation de famille et de fortune lui assuraient, malgré les souvenirs fort vifs de sa jeunesse, une sympathie générale. Elle avait un salon très recherché, où elle réunissait des hommes distingués appartenant à la politique, à la littérature et aux arts. Elle leur adjoignait quelques jolies femmes pour orner le paysage. Jeanne de Montrescan, avec son élégante beauté et sa supériorité timide, était un des charmes de ce salon modèle, et il n'y avait pas d'attention et de flatterie que la vieille comtesse ne lui prodiguât pour l'y attirer et l'y retenir. Elle avait pour cela deux raisons. La première, fort avouable, était de rehausser l'éclat de ses réceptions. La seconde, moins orthodoxe, était de faire de Madame de Montrescan la maîtresse de son fils. Elle avait perdu, il y avait 7 ou 8 ans, l'aîné de ses fils, Guy de Lerne. Le second, Jacques, sortait de Saint-Cyr quand son frère mourut. Voyant sa mère seule, il avait donné sa démission pour vivre auprès d'elle. C'était un jeune homme très bien doué, qui eût certainement pu, s'il l'eût voulu, pousser ses dons naturels jusqu'au talent. Il peignait des aquarelles fort agréablement. Mais il était surtout excellent musicien, et quelques-unes de ses compositions, valse, berceuse, symphonie, étaient d'un mérite tout à fait supérieur. Mais, soit indolence naturelle, soit découragement de sa carrière brisée, il était demeuré un simple dilettante, et de plus, il était devenu un assez mauvais sujet. Excepté chez sa mère, où le devoir le retenait, on le voyait peu dans le vrai monde, où il ne se plaisait pas, et on le voyait beaucoup dans l'autre, où il paraissait se plaire infiniment. Madame de Lerne avait d'abord songé à le marier. Il faut lui rendre cette justice. Mais elle l'avait trouvé si récalcitrant sur cet article qu'elle s'était rabattue sur l'idée d'une liaison honorable qui le tirerait du moins de la mauvaise compagnie. Depuis longtemps, elle avait jeté les yeux pour ce louable objet sur Jeanne de Morescan, dont le sinistre conjugal n'avait pas échappé à sa vieille expérience. Sans entrer à cet égard avec son fils dans des explications malséantes, elle avait donc, autant qu'elle le pouvait, mis sous ses yeux cette séduisante personne, ne négligeant d'ailleurs aucune occasion de relever devant lui ses perfections. Mais Jacques de Lerne, quoique évidemment frappé de l'extrême beauté de Jeanne et de la distinction de son esprit, n'avait paru lui témoigner qu'une curiosité distraite. Ce fut alors que la comtesse, qui surveillait attentivement la jeune femme, la voyant près de tomber sous la serre de monsieur de Montélin, résolut de tenter quelques coups héroïques, moitié par intérêt pour son fils, moitié par haine contre l'homme qui avait failli le lui tuer. Elle écrivit un matin à Jeanne pour l'informer qu'elle irait, sauf contre ordre, la voir à 3 heures, ayant à lui confier quelque chose d'important et d'agréable. Jeanne, un peu étonnée de ce mystère, l'attendit à l'heure dite. Elle la vit entrer dans son boudoir, accompagnée d'un valet de pied qui portait une de ces petites cabanes en vannerie, ornées de passementeries, de franges et de houppes, qu'on fait maintenant pour les chiens. La comtesse elle-même tenait maternellement sur son bras un très petit chien aux longs poils soyeux, une vraie miniature d'épagneul blanc et feu, qu'on disait originaire du Mexique et qui faisait l'admiration et l'envie des connaisseurs. « Ma toute belle !» dit madame de Lerne. « Vous m'avez dit que vous étiez amoureuse de Toby. Permettez-moi de vous l'offrir en toute propriété. » Madame de Morescan se récria. « Ah ! Est-ce possible ?»« Je me demandais depuis longtemps, » reprit madame de Lerne, ce que je pourrais bien faire pour remercier une jeune et charmante créature comme vous de se montrer si aimable, si bonne, si fidèle pour une vieille amie. C'est si rare. J'en suis si touchée, si touchée. J'ai été bien heureuse de trouver quelque chose qui puisse vous plaire, je vous assure. » Jeanne ne se rappelait pas très nettement la circonstance où elle avait manifesté sa passion pour Toby. Mais enfin, elle sentit le prix du sacrifice qu'on lui faisait. « Ah, madame, chère madame, » dit-elle toute confuse, « mais comment accepter cela? Elle est si gentille, cette bête, si extraordinaire. Mais quelle privation! Oh, mon Dieu, et cette niche délicieuse! Non, vraiment !» Et pour achever sa phrase, la gracieuse jeune femme sauta au cou de madame de Lerne, ce qui fit aboyer Toby. « Viens, mon amour !» dit Jeanne en le prenant dans ses bras et en le couvrant de caresses. Elles s'assirent, et madame de Lerne, répondant aux questions empressées de Jeanne, lui donna, sur la façon de soigner, de nourrir et même de médicamenter Toby, tous les renseignements désirables. Elle s'informa ensuite de la santé de monsieur de Morescan. Au reste, je ne sais pas pourquoi je vous en demande des nouvelles. Il n'y a qu'à le regarder. Sa santé est exubérante. C'est un homme superbe. Superbe. Il fait plaisir à voir, cet homme-là. Et monsieur votre fils? Demanda Jeanne. Comment va-t-il? Mon fils? Ah, lui, c'est un autre genre. Genre délicat, vous savez, une nature d'artiste. Mais enfin, s'il n'y avait que cela. Mais c'est un très bon fils, dit doucement madame de Morescan. Oh, certainement, pour un bon fils, c'est un bon fils, il n'y a pas de doute. Et dites-moi, ma chère petite, êtes-vous libre demain? C'est mon mercredi. Voulez-vous venir dîner avec nous? Vous vous trouverez avec votre ami d'Hermanie. Volontiers. Je crois que monsieur de Moresque n'a pas pris d'engagement. Parfait alors. Eh bien, je compte sur vous deux. Et madame de Lerne se leva comme pour se retirer. Mais auparavant, elle fit ses adieux à Toby. Et ce fut pour madame de Montrescan l'occasion d'une nouvelle effusion de reconnaissance. Enfin, le mot qu'attendait madame de Lerne, et qu'elle eût provoqué au besoin, sortit des lèvres de Jeanne. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je pourrais donc faire à mon tour pour vous être agréable? Madame de Lerne se retourna brusquement vers elle, et, la regardant avec son aimable sourire de vieille, mariez-moi mon fils, dit-elle. Ah, cela, par exemple, s'écria gaiement madame de Morescan. C'est une entreprise dont je me reconnais incapable. Pourquoi donc? Dit madame de Lerne sur le même ton. Je me figure au contraire que vous en êtes plus capable que qui que ce soit. Jeanne ouvrit sans répondre de grands yeux interrogateurs. Vraiment, oui, continua madame de Lerne. Je suis persuadée qu'il prendrait plus volontiers une femme de votre main que de toute autre. Mais quelle plaisanterie, chère madame, murmura Jeanne en la regardant toujours avec le même air de surprise. Je ne plaisante pas, et si vous aviez une sœur qui vous ressemblât, véritablement je crois que l'affaire se ferait tout de suite. Je vous assure, dit Jeanne, que je ne vous comprends pas. Monsieur votre fils me connaît à peine. Pardon? Je vous demande bien pardon. Il vous connaît parfaitement. Il est très observateur, mon fils, très perspicace. Je sais pertinemment qu'il vous apprécie beaucoup. Je n'ai pas à insister là-dessus. Mais je suis certaine que, pour cette question du mariage, vous auriez une très grande influence sur lui. Très grande influence. Et si vous lui recommandiez, je suppose, une jeune personne, une de vos amies, eh bien, je me figure qu'il la prendrait les yeux fermés, ma parole. Je n'en crois pas un mot, s'écria madame de Morescan. Et moi, j'en suis sûre. Essayez, vous verrez. Elles se mirent à rire toutes deux. Non, sérieusement, reprit la comtesse, pensez-y donc un peu. Cherchez parmi vos amis, vos connaissances. Ah, vous me rendriez un fier service, allez. Mais d'abord, je vous dirai, répliqua madame de Morescan, qu'il me fait une peur affreuse, monsieur Jacques. Allons donc, s'écria la comtesse comme stupéfaite. Positivement, il a l'air si railleur, il a l'esprit si mordant, si amer, et puis enfin... La jeune femme parut embarrassée. Et puis, enfin, c'est un mauvais sujet, n'est-ce pas? Mon Dieu, je ne sais pas, ça ne me regarde pas. Oui, c'est un très mauvais sujet, pardieu, c'est certain. Mais, comme tous ces animaux-là, il a un cœur d'or, et il est charmant par-dessus le marché. Ah, quelle bonne œuvre vous accompliriez, ma chère enfant, si vous m'aidiez à le tirer des pattes de cette Lucie Marie. Car c'est Lucie Marie maintenant, vous savez. Ah? Oui, de l'opéra, celle qui fait les pages. C'est affreux, affreux, ma pauvre enfant. Vous verrez ça plus tard avec monsieur votre fils. En attendant, tâchez de marier le mien, et ça sera gentil tout à fait. Et je vous répète que s'il y a quelqu'un au monde qui soit capable de faire ce miracle-là, c'est vous. Adieu, ma chère belle. Elle l'embrassa, et près de la porte, au moment de sortir, Vous lui en direz deux mots demain soir, hein ?
Dame, je tâcherai, dit Jeanne.
La comtesse de Lerne se retira alors définitivement, fort satisfaite de sa campagne. Elle n'avait pas tort de l'être, car, pour la première fois depuis plusieurs mois, l'imagination de Jeanne était occupée d'un autre homme que M. de Montélin. Elle avait fort bien entendu ce que Mme de Lerne avait espéré lui faire entendre par ses insinuations et ses réticences scélérates, à savoir qu'elle avait dans Jacques de Lerne un admirateur fervent. Cela l'étonnait et l'intriguait. Comment ? Pourquoi ? Quel rapport entre eux ? Elle n'y concevait rien. Elle s'étendit sur sa chaise longue et se mit à rechercher dans son souvenir les occasions où il l'avait rencontrée, les paroles qu'il lui avait dites, son attitude avec elle et l'expression de ses regards, afin de trouver dans ces détails quelque chose qui confirmât les révélations mystérieuses de la vieille comtesse. Il était vrai que ce grand jeune homme, froid, spirituel et ennuyé, l'avait toujours beaucoup intimidée. Elle se sentait mal à l'aise et inquiète quand il s'approchait d'elle dans un salon. Elle crut se rappeler pourtant qu'il semblait en effet la traiter avec une sorte de courtoisie exceptionnelle, lui épargnant les plaisanteries sarcastiques qu'il ne ménageait guère aux autres femmes. Elle aimait l'idée d'être respectée par ce débauché. Elle évoqua devant elle son beau visage fatigué et hautain, ses yeux pénétrants, ses joues rases et ses longues moustaches pendantes à la tartare. Elle sourit à la pensée de prendre avec ce personnage, terreur de sa jeunesse, des airs protecteurs et maternels. Mais elle se dit que, certainement, elle n'oserait pas. Comme elle se livrait à ses rêveries, tout en lissant de sa blanche main les grandes oreilles du petit Toby, la porte s'ouvrit et donna passage à la belle tournure et au favori bleuâtre de M. de Montélin. Le jeune Toby, qui n'avait jamais vu le « requin des salons », attendu que M. de Montélin n'allait pas chez Mme de Lerne, le prit apparemment pour un malfaiteur et témoigna cependant qu'il ne le craignait pas. Il s'élança des genoux de sa maîtresse et se posta bravement devant elle en aboyant de toutes ses forces et en poussant même des pointes sur son ennemi. Rien ne dérange l'entrée d'un galant homme chez une femme, surtout quand il a des prétentions à ses bonnes grâces, comme un puéril incident de ce genre. Jeanne de Morescan, qui était aussi fine qu'une autre, et même davantage, ne put s'empêcher de rire du contraste qu'offrait l'air aimable dont M. de Montélin ne voulait pas se départir, avec l'inquiétude visible que lui causait l'agression de Toby. Ce fut ainsi que Toby, comme s'il fût entré dans le complot de Mme de Lerne, contribua pour son humble part à en préparer le succès. Car, après un pareil début, M. de Montélin comprit qu'une scène d'amour était impossible. Il se borna donc ce jour-là à effleurer avec mélancolie les choses de sentiment et se résigna à caresser Toby, puisqu'il ne pouvait pas l'étrangler. Chapitre 5. Ce ne fut pas sans une certaine agitation intérieure que Jeanne de Morescan monta le lendemain dans son coupé pour se rendre, avec son mari, chez la comtesse de Lerne. Elle avait été fort préoccupée de savoir quelle toilette elle mettrait. Après y avoir mûrement réfléchi, elle s'était décidée pour une toilette austère, en harmonie avec la gravité du rôle qu'elle était appelée à jouer ce soir-là. Elle avait mis tout simplement une robe de velours d'une couleur ponceau sombre. C'était dommage que ses bras et ses épaules fussent hors de la robe dans leur étincelante nudité. Elle sentait que la sévérité de sa tenue en était un peu altérée, mais elle ne pouvait pas faire autrement. Elle fut placée à table à la gauche de Jacques de Lerne, qui avait Madame d'Hermanie à sa droite.
Comme elle s'était un peu monté l'imagination sur ce culte secret que Jacques était censé avoir pour elle, elle ne laissa pas de trouver d'abord que ce culte secret était un peu trop discret. Monsieur de Lerne lui adressait à peine la parole et se consacrait tout entier à sa voisine de droite. Faute de mieux, Jeanne prêta sa fine oreille à leur conversation. Elle entendit, entre autres choses, que madame d'Hermagny, après avoir échangé avec Jacques des attaques et des ripostes fort brillantes, lui reprochait sa méchante manie d'infliger des surnoms à tout le monde.
« Je suppose, dit-elle, que j'ai aussi le mien ?»«
Cela ne fait pas l'ombre d'un doute, dit Jacques.
« Et quel est-il ?
Demanda la blonde jeune femme en tendant vers lui son front angélique.
« L'eau qui dort !»
répondit Jacques à demi-voix en se penchant un peu. Madame d'Hermagny rougit, puis, le regardant en face avec sa candeur de jeune communiante,
« Pourquoi l'eau qui dort ? » dit-elle.
« Pour rien, c'est un nom indien. »«
Et moi, monsieur ? » demanda Jeanne en riant. « Ai-je aussi mon surnom ?»«
Vous ? » dit-il. Il fixa ses yeux sur elle, la salua légèrement et ajouta d'un ton sérieux « Non ». La voyant un peu embarrassée, il changea aussitôt l'entretien et se mit à lui parler des pièces nouvelles, des musées, des pays étrangers qu'elle avait visités, paraissant lui poser ses brèves questions uniquement pour avoir le plaisir de l'entendre répondre, et la regardant d'un air grave et doux comme pour l'encourager à bien dire.
Eh bien, décidément, oui, il y avait là quelque chose d'extraordinaire.
Il y avait dans la manière dont ce Jacques lui parlait, l'écoutait et la regardait, une nuance indéfinissable de bonté et d'estime, qu'il semblait réservée pour elle seule. Comment ne s'en était-elle pas aperçue plus tôt? Comme c'était singulier! Et cela était d'autant plus singulier qu'elle n'était pas du tout, mais pas du tout l'espèce de femme qu'un monsieur comme ça devait apprécier. Enfin, cependant, c'était aimable de sa part. Et Jeanne, dès ce moment, se voua avec plus de zèle et de cœur qu'auparavant à la tâche de marier un jeune homme qui, malgré ses mauvaises relations, avait encore quelques bons sentiments. Elle passa même immédiatement en revue dans sa tête les jeunes filles qu'elle connaissait et qui pouvait lui convenir. Mais pour l'instant, elle n'en trouva aucune. Après le dîner, une partie des convives passa au fumoir. Monsieur de Lerne les suivait quand sa mère l'arrêta.
« Jacques, lui dit-elle, joue donc ta dernière valse à madame de Morescan avant que tout le monde n'arrive. Elle ne la connaît pas. Je suis sûre qu'elle lui plaira beaucoup.
« Je vous en prie, monsieur. » dit Jeanne.
Monsieur de Lerne salua et s'assit devant le piano. Il joua sa valse nouvelle, puis quelques autres morceaux que Jeanne lui demanda. Peu à peu, comme il arrive en pareil cas, la plupart des assistants, après avoir prêté pendant quelques minutes une attention courtoise à la musique, reprirent leur conversation, chacun dans leur coin. Madame de Morescan demeura seule, en dilettant obstinée, auprès du piano et de Jacques, à l'une des extrémités du vaste salon. Comme le jeune homme venait de terminer une ritournelle brillante et promenait vaguement ses doigts sur le clavier, madame de Morescan jugea que le moment psychologique était arrivé.
« Quel talent vous avez ! » dit-elle. « Et vous peignez très bien avec cela, dit-on. »
« Je barbouille un peu. »
Comme il y a des choses drôles en ce monde, des choses inexplicables,
murmura la jeune femme comme se parlant à elle-même.
« C'est moi, madame, qui vous suggère cette réflexion ? »
« Oui, vous avez tous les goûts qui peuvent attacher un homme à son intérieur, et vous vivez au dehors, au cercle. »
« Mon Dieu, voilà !» dit monsieur de Lerne.
Monsieur Jacques, reprit Jeanne, dont l'éventail palpita plus rapidement.
Madame,
vous allez me trouver bien indiscrète.
Je suis si indulgent.
Votre mère désire beaucoup vous marier.
Je n'en doute pas, madame.
Et vous ne voulez pas?
Non, madame, pas du tout.
Vous avez des raisons pour cela?
Une seule, c'est que je ne connais pas en ce monde une femme qui soit digne de moi.
Ah, mon Dieu!
C'est-à-dire, pardon, reprit Jacques avec la même gravité. Il y a vous, mais vous n'êtes pas libre. Et d'ailleurs...
D'ailleurs? Demanda la jeune femme en tendant l'arc de ses sourcils.
D'ailleurs, vous-même, vous êtes sur le point de mal tourner.
Mais, monsieur Jacques...
Veuillez m'excuser, c'est mon opinion.
Parce que... dit Jeanne.
Parce que vous choisissez mal vos amis.
Cela veut dire, je suppose, que j'ai tort de ne pas choisir monsieur Jacques de Lerne?
Non, en vérité, non. Et cependant, tel que vous me voyez, j'étais née pour comprendre, et même pour partager les amours des anges.
Ah, franchement, dit en riant madame de Morescan, si j'en crois le bruit public, vous en êtes loin des amours des anges.
Que voulez-vous? On m'a découragé,
dit monsieur de Lerne, riant à son tour. Voyons, madame. Voulez-vous me permettre de vous conter une histoire scandaleuse?
Cela m'intéressera infiniment, mais je présume que je m'en irai au milieu.
Je ne crois pas. C'est une histoire qui vous expliquera bien des choses. C'est celle de mon premier amour, où je me conduisis comme un misérable. Mais n'anticipons pas. J'avais, madame, 21 ans. Et si étrange que la chose puisse paraître, je n'avais jamais aimé. Je me faisais alors, il faut vous le dire, des femmes et de l'amour une idée extraordinairement élevée, une idée presque sainte. J'avais dans le cœur un trésor véritable de dévouement, de passion et de respect que je n'entendais pas placer légèrement. Enfin, une femme se rencontra que j'aimais comme elle voulait être aimée et qui m'aima comme elle voulut. Elle appartenait au monde le plus patricien. Elle était mal mariée, cela va sans dire, et très malheureuse. Elle n'était plus très jeune, mais je ne l'en aimais que davantage, parce qu'elle en avait souffert plus longtemps. Du reste, extrêmement belle encore, quoique blonde. En outre, d'une honnêteté timorée qui me désespéra plus d'une fois. Car enfin, quoiqu'elle me fût sacrée, j'avais 20 ans. Mais il fallait la respecter ou la quitter. Nos tête-à-tête étaient rares et courts. Son mari était jaloux et la surveillait de près. Il y aurait bien eu quelque moyen vulgaire de nous donner des rendez-vous au dehors, dans un fiacre ou chez un ami. Mais tout ce qui était vulgaire, tout ce qui eût pu dégrader notre amour, nous répugnait également à tous deux. Des mois se passèrent dans ce charme et dans cette contrainte. Malgré les réserves, assurément très pénibles, que sa conscience m'imposait, peut-être à cause de ses réserves même, j'étais aussi amoureux et aussi heureux qu'on peut l'être en ce monde. J'avais la joie profonde de rendre à cette chère créature tout son bonheur arriéré et de n'y avoir mêlé aucun remords sérieux. Car le peu qu'elle me donnait, elle l'eût donné à un frère. Et cependant, ce peu était pour moi une suprême volupté. Par une belle nuit du mois d'octobre, pendant les chasses, nous étions voisins à la campagne. Son mari était allé passer 24 heures à Paris. J'obtins, à force de supplications et sous la foi des serments, d'être reçu dans sa chambre pendant 1 heure.
Pardon ? Dit madame de Morescan en se soulevant sur son fauteuil. « Si je m'en allais ?»«
Non, non, ne craignez rien. » La chambre était au rez-de-chaussée du château et s'ouvrait sur le parc. J'y pénétrai vers minuit par une fenêtre un peu haute et d'un accès assez difficile, autour de laquelle il y avait, je m'en souviens, des lianes de jasmin et de clématite qui répandaient dans la nuit une odeur exquise.
Je ne sais si ce fut cette odeur un peu capiteuse ou l'impression nouvelle pour moi de cette chambre personnelle, mais je dois vous avouer que je me montrai cette nuit-là moins résigné que de coutume aux scrupules impitoyables qu'on m'opposait. Ce fut une scène douloureuse que je ne me rappelle pas sans honte. La pauvre femme finit par se jeter à mes genoux, les mains jointes, me suppliant d'être honnête homme, me demandant avec larmes si je n'étais pas heureux, si jamais je pouvais l'être davantage, si je voudrais l'être aux dépens de son repos, de son honneur, de sa vie même, car elle ne survivrait pas à une faute. Enfin, elle vainquit. Je cédais moitié à ses pleurs, moitié à mon propre sentiment, qui me disait en effet qu'il n'y avait rien au-delà des ivresses de cette amitié passionnée et innocente. Elle me remercia en me baisant follement les mains, et je sortis par où j'étais venu. À peine eus-je posé le pied sur le sable de l'allée que je me retournai pour lui envoyer un dernier baiser en murmurant « À demain !» Je la vis aux clartés de la lune, debout et immobile dans le cadre de la fenêtre, les bras croisés sur le sein, le buste un peu en arrière. À l'envoi de mon baiser, elle répondit par un léger mouvement d'épaule. Puis, de sa belle voix de contralto que j'adorais, elle laissa tomber lentement ces deux mots « Adieu, imbécile !» Je ne l'ai plus revue. Dès ce moment, elle me ferma sa porte, sa fenêtre et son cœur. Madame de Morescan l'avait écouté avec une extrême attention. Quand il eut fini, elle le regarda fixement. « Et vous en avez conclu ?» dit-elle. « J'en ai conclu que les honnêtes femmes étaient trop fortes pour moi. « Sérieusement, monsieur, si pour justifier votre mépris général de notre sexe, vous n'avez pas d'autre motif que ce souvenir de jeunesse... « Oh, j'en ai d'autres !» dit monsieur de Lerne. Il prononça ces mots d'un ton si singulier que Jeanne jeta vivement les yeux sur lui. Elle fut surprise de l'expression presque douloureuse qui avait subitement contracté le front et les lèvres de Jacques. « J'en ai d'affreux !» ajouta-t-il en insistant. Puis, d'un accent très ému, « Vous êtes une jeune femme pleine de bonté et d'honneur, que j'estime infiniment, mais je ne puis les dire, ces motifs, même à vous. » Elle se leva, un peu embarrassée, et en drapant sa robe. « Je crois que je me compromets, » dit-elle gaiement. Il s'était levé lui-même aussitôt. « Pardon de vous avoir retenu si longtemps. »« Mais je ne renonce pas, » dit-elle gracieusement en s'éloignant. Il s'inclina sans répondre. Le long entretien de madame de Morescan et de Jacques n'avait pas manqué d'éveiller la curiosité, plus ou moins bienveillante, des invités de madame de Lerne. Jeanne s'en aperçut, et pour enlever à leur tête-à-tête tout caractère suspect, elle dit à haute voix à la comtesse en passant près d'elle. « Aucun espoir, chère madame, j'ai perdu mes peines. » La mère de Jacques, qui avait épié de loin avec un vif intérêt la physionomie des deux interlocuteurs, ne fut pas de l'avis de Jeanne. Elle jugea tout au contraire que la jeune femme n'avait pas perdu ses peines et qu'il y avait de l'espoir. Chapitre 6. On sait assez bien comment naît l'amour. On ne sait pas du tout comment naît la sympathie. Il est à peu près impossible de saisir les fils déliés et complexes qui rapprochent soudain deux cœurs et deux esprits dans ce sentiment bizarre. Quoique l'attrait féminin n'y nuise pas, il n'y est pourtant pas indispensable, puisque la sympathie se rencontre souvent entre des personnes du même sexe et qu'elle ne s'effraie pas des cheveux blancs. Cette entente subite qui s'établit entre deux êtres presque inconnus l'un à l'autre cette vivacité d'impressions échangées, cette bonne intelligence mutuelle des regards, cette facilité d'expansion et ce besoin de confidence, dans quel secret rapport d'idées, de goûts, de qualités ou de défauts doit-on en chercher la cause subtile? Nous l'ignorons. Mais ce sentiment indéfinissable, on a compris que Jacques de Lerne l'éprouvait pour Jeanne de Moresquant, et que Jeanne, après leur entretien confidentiel, n'était pas loin de le partager. Quoique séparés en apparence par des abîmes, ce libertin blasé et cette jeune femme sans tache s'entendaient déjà à demi-mot. Malgré tant de différences entre eux, ils sentaient qu'ils avaient un fond commun qui les disposait aux mêmes impressions, aux mêmes jugements, aux mêmes épreuves de la vie, aux mêmes joies et aux mêmes douleurs. Ces rencontres sympathiques sont les bonnes fortunes de la vie mondaine. Dans la mobilité et dans l'étendue des relations parisiennes, elles ne durent souvent que l'espace d'un dîner ou d'une soirée. On se plaît, on s'exalte ensemble, on se confie ses secrets, on s'aime presque, et l'on ne se revoit plus que l'année suivante. C'est à recommencer. Mais, entre Madame de Moresquant et Jacques de Lerne, il n'en pouvait être ainsi. Ils étaient du même monde et de la même intimité, et nécessairement destinés à reprendre à bref délai la suite de leur conversation suspendue. Monsieur de Lerne, d'ailleurs, après y avoir rêvé pendant 2 ou 3 jours, se dit qu'il devait une visite à Madame de Moresquant. Pourquoi voulait-elle le marier? Quel était ce mystère? En tout cas, c'était une marque d'intérêt personnel qui valait une politesse et un remerciement. Il alla donc un soir chez elle, au hasard, vers 5 heures. Il y trouva Monsieur de Montélin, établi au coin du feu. Monsieur de Montélin, qui avait déjà bien assez de la présence de Tobie, fut tellement exaspéré par celle de Monsieur de Lerne qu'il en perdit son savoir-vivre ordinaire. Il persista, contre toute convenance, à prolonger indéfiniment sa visite, si bien que Jacques de Lerne dut prendre le parti de se retirer le premier, quoiqu'il fût arrivé le dernier. Monsieur de Montélin n'y gagna pas grand-chose, et l'excessive froideur que lui témoigna Jeanne après le départ de Jacques l'avertit qu'il avait commis une maladresse. Pour la réparer, il s'empressa, comme c'est l'usage, d'en commettre une seconde. « Vous paraissez m'en vouloir, dit-il en souriant, de n'avoir pas cédé la place à Monsieur de Lerne. » « Tout bonnement, oui, dit-elle. Vous étiez arrivé avant lui, et rester après lui, c'est vous donner ici un air de maître de maison auquel vous n'avez aucun droit, que je sache. » « C'est vrai, dit-il. « Je vous demande 1000 fois pardon. Mais vous savez que le sentiment ne résonne pas. »« Il a tort, » reprit-elle. « De plus, vous êtes, il me semble, avec Monsieur de Lerne, depuis votre duel, dans une situation qui vous commande envers lui des égards particuliers. »« C'est juste, mais comment trouver la force de m'arracher ?»« À propos, » interrompit la jeune femme. Quel était donc le motif de ce duel? Peut-on savoir?
Oh, rien, un commérage.
Un commérage? Quel commérage?
Un mot blessant qui m'avait été rapporté.
Ah, quel mot? Vous ne voulez pas me le dire? Vous préférez que je le devine?
Alors, vous le savez, dit Monsieur de Montélin.
Mais certainement, dit-elle.
« Comme c'est bête, hein ?»«
Mais non, pas tant. »«
J'espère que ce n'est pas lui qui vous l'a dit, en tout cas. »«
Il a trop d'honneur pour cela, » répondit Jeanne.
Monsieur de Montélin, voyant que décidément cette partie d'escrime ne tournait pas à son avantage, présenta encore quelques excuses et prit congé. En vertu du proverbe persan, « Fais-toi rare et l'on t'aimera », les visites du comte de Lerne étaient en général considérées par les dames
comme de petites fêtes très flatteuses pour celle qui en était favorisée. Sa grâce personnelle, son esprit, ses talents et même la nuance un peu vive de ses mœurs en faisaient un personnage particulièrement intéressant. Ce fut donc pour madame de Morescan une contrariété véritable de penser qu'à sa première visite il eût trouvé chez elle si peu d'agrément, et surtout qu'il y eût trouvé monsieur de Montélin installé sur le pied d'une intimité presque compromettante. Sans prévoir comment il lui serait possible de s'expliquer avec monsieur de Lerne sur un sujet si délicat, elle attendit cependant avec impatience le mercredi suivant, où elle comptait le rencontrer à la réception de sa mère. Mais, en arrivant chez la comtesse, elle eut l'ennui d'apprendre que Jacques avait une forte migraine et qu'il s'était couché. À tort ou à raison, elle vit dans cette circonstance un trait de dédain, ou du moins de mauvaise humeur à son adresse. L'estime de ce jeune homme, d'une vie si peu exemplaire, lui était devenue tout à coup si essentielle que l'idée de le laisser pendant un temps indéterminé sous une impression fâcheuse à son égard lui parut insupportable. Elle était au besoin femme de résolution. Elle rassembla son courage et, prenant la vieille comtesse à part, « Eh bien, chère madame, lui dit-elle, je commence vraiment à croire que j'ai désespéré trop vite de la conversion de votre fils. Il est venu avant-hier chez moi, et comme il n'est pas grand visiteur, j'ai pensé qu'il avait à me dire quelque chose de sérieux, qu'il voulait me parler de la grande affaire de son mariage. Malheureusement, je n'étais pas seule. Je le regrette beaucoup, surtout si c'était un bon mouvement qui l'amenait. Rien de plus probable, ma chère enfant. Mais, Dieu merci, cela n'est pas irréparable, si vous le voulez. Quand pourrait-il avoir le plaisir de vous trouver, si le cœur lui en dit ?»«
Si le cœur lui en dit, » reprit madame de Morescan, en plissant le front d'un air de réflexion.
« Eh bien, voyons, demain soir, après le dîner, je me repose justement demain soir. »
« Il en sera informé, ma belle, et soyez sûre que je vous adore. »
Madame de Morescan passa la journée du lendemain à se repentir amèrement, en son âme délicate et solitaire, d'avoir fait à monsieur de Lerne une avance si marquée.
S'il ne venait pas, quelle mortification! Et s'il venait, ne croirait-il pas venir à un rendez-vous? N'irait-il pas se figurer peut-être que cette question de mariage n'était qu'un prétexte servant à couvrir une sorte de provocation effrontée?
Le soir arriva. Après le dîner, monsieur de Morescan joua un instant avec son fils Robert dans le petit salon bouton d'or de sa femme. Il alla ensuite, comme c'était sa coutume, fumer un cigare sur le boulevard. Jeanne continua d'exécuter fiévreusement sur le piano une série de valses et de mazourques, pendant que son fils, en robe blanche et en ceinture bleue, dansait des gigues avec sa bonne anglaise et Toby. Elle s'interrompit brusquement en voyant la porte s'ouvrir. C'était un domestique.
« Madame la comtesse reçoit ?»«
Oui, qui est là ?»«
Monsieur le comte de Lerne, madame. »«
Faites entrer. » Elle enleva son fils de ses deux mains et l'embrassa. Puis elle s'assit gravement dans un fauteuil, en le tenant sur son bras comme les madones tiennent leur bambino.
Jacques de Lerne, en entrant, eut sous les yeux ce tableau de sainteté, qui dut lui prouver, du moins Jeanne l'espérait, que les circonstances étaient plus sérieuses et plus respectables qu'il n'avait peut-être été tenté de le supposer. Il parut cependant n'éprouver ni surprise ni désappointement, et se mit à caresser le jeune Robert comme s'il fût venu uniquement pour cela. Après quelques minutes, madame de Morescan prit le parti d'envoyer coucher Robert, puisqu'il ne servait à rien. Comme l'enfant venait de sortir, une violente rafale de vent ébranla les persiennes du salon.
« Ah, mon Dieu ! » s'écria Jeanne. « Entendez-vous ? C'est une vraie tempête ! Et il neige avec cela, je crois !» « Il neige très fort, » dit Monsieur de Lerne. « On est joliment bien au coin de votre feu par un temps pareil. »«
Quand je vous dis, » reprit Jeanne en riant, « que vous êtes un homme d'intérieur. »
« Ah, nous y revoilà. Mais enfin, madame, dites-moi donc pourquoi vous tenez tant à me marier? Une si bizarre pensée n'est pas venue de votre initiative. Si j'ai bien compris, l'autre soir, c'est ma mère qui vous l'a suggéré? »
« Oui, certainement. »
« Ah, dit-il, c'est ma mère. » Il devint pensif, puis, après une pause, « Je regrette, reprit-il, de ne pouvoir faire ce plaisir à ma mère et à vous. Mais je vous l'ai dit, je ne veux pas me marier. »
« Parce qu'il n'y a pas au monde une seule femme digne de vous, c'est convenu. »
« Mon Dieu, madame, permettez-moi de m'expliquer. Vous savez qu'en matière de religion, les gens qui ne pratiquent pas sont ceux qui se montrent le plus exigeants et le plus austères. On n'en fait jamais assez à leur gré.
« Moi, vous disent-ils, si je croyais, vous en verriez bien d'autres. Je ferais ceci, je ferais cela, enfin la perfection. Eh bien, je suis de même en matière de mariage. Je le comprends d'une façon telle que personne ne me paraît capable de le comprendre comme moi. Et voilà pourquoi j'y renonce.
« Comment le comprenez-vous, voyons ? » dit la jeune femme d'un ton de légère ironie.
« Vous ririez de moi si je vous le disais. »«
Je ne crois pas. Essayez. »«
Eh bien, madame, le mariage pour moi, c'est l'amour par excellence. Il est possible que l'amour dans le mariage soit un rêve, mais c'est le plus beau des rêves, et s'il se réalise quelquefois, même à demi, il ne doit y avoir rien de plus doux ni de plus élevé au monde. Il est le seul qui mérite véritablement le nom d'amour. » Parce qu'il est le seul auquel l'idée religieuse mêle quelque chose d'éternel. Le divorce, dont on parle beaucoup cette année, me déplaît à cause de cela. Il enlève au mariage le sentiment de l'infini. Ce sentiment peut être une gêne pour des âmes vulgaires ou mésalliées. Mais supposez deux êtres qui se sont choisis avant de s'unir, qui se connaissent bien, qui se plaisent, qui s'estiment, qui s'aiment, enfin, et concevaient tout ce que doit ajouter au bonheur de leur parfaite union la certitude de son étendue sans fin. C'est une route charmante que suivent les deux chers camarades, et qu'ils voient avec ravissement se perdre dans des horizons sans limite, où le ciel finit par se confondre avec la terre.
« Je vous ennuie, madame ?»
Elle fit signe que non.
« Eh bien, poursuivit Monsieur de Lerne, je ne me figure réellement pas une existence plus riche et plus pleine que celle de ces deux voyageurs-là, de ces deux amants qui sont en même temps deux amis. Leur être est absolument doublé. Tous leurs sentiments sont plus vifs, toute leur joie agrandie, leur chagrin seul diminue. S'ils sont intelligents, comme je le suppose, ils le deviennent davantage. S'ils sont honnêtes, ils deviennent meilleurs. Par l'étroit rapprochement, par l'échange continuel, par l'émulation tendre, par le désir de ne pas déchoir dans l'estime mutuelle. Dans les temps troublés où nous vivons, j'aurais rêvé avec plus de charme encore cette union d'une intimité sans égale entre deux êtres généreux et délicats, s'appuyant et se fortifiant l'un l'autre pour se maintenir à la fois le cœur haut et le goût pur, pour rester fidèle aux vieux ancêtres, en fait d'honneur, et aux vieux maîtres, en fait d'art et de poésie, pour admirer ensemble ce qui est éternellement beau et mépriser le reste, pour se réfugier sur les hauteurs comme dans une arche, pour y parler de tout ce qui agite le cœur ou la pensée à cette heure du siècle, que vous dirais-je, pour mettre en commun leurs croyances ou leurs doutes, pour penser quelquefois ensemble à Dieu même, pour y croire, le chercher ou le pleurer. Vous voyez, madame, que c'est une pure folie. » L'attitude de Jeanne pendant qu'elle écoutait Monsieur de Lerne était charmante. Penchée un peu en avant, elle le regardait de ses grands yeux étonnés, comme s'il eût fait jaillir devant elle une source de délices, et ses lèvres s'entr'ouvraient comme pour y boire. Quand il cessa de parler, il vit la jeune femme essuyer furtivement du doigt une larme qui glissait sur sa joue. Troublé lui-même, il eut un mouvement irréfléchi de sympathique attrait et lui tendit la main. Jeanne retira doucement la sienne et prit un air grave. « Pardon, » dit-il, « je croyais que nous étions amis. »«
Pas encore, » murmura-t-elle.
« Vous n'avez pas confiance ? Ai-je donc l'air d'un homme qui vous fait la cour ?»«
Chacun à sa manière, » dit-elle en souriant faiblement.
« Avouez que la mienne serait singulière. »
Il se mit à jouer d'une main fiévreuse avec les bibelots qui garnissaient la table. Ses yeux s'arrêtèrent sur une photographie du petit Robert. Il la saisit et la regarda attentivement.
« Il est joli, n'est-ce pas, mon fils ? » dit la jeune femme.
« Charmant ! Pourquoi l'avez-vous pris sur votre bras tout à l'heure pour me recevoir ?»«
Je ne sais, le hasard ?»«
Non, ce n'était pas le hasard. Vous vouliez me dire, si vous venez ici en ami à la bonne heure, si vous venez en amoureux, voilà ma réponse. »«
C'est vrai. N'est-elle pas bonne ?»
« Il n'y en a pas de meilleure, » reprit Jacques, dont la voix trembla légèrement. « Et si je m'étonne d'une chose, » poursuivit-il avec une étrange animation, « c'est que les femmes qui sont tentées de faillir ne soient pas plus souvent retenues par la pensée de leur fils. Croient-elles donc que leur fils ne sera pas instruit un jour ou l'autre par les propos du monde, de leur conduite légère ou coupable ? Et l'homme qui ne respecte plus sa mère, « que voulez-vous qu'il respecte au monde ? Mais, avec le respect de sa mère, tout lui manque. Tout s'écroule, il n'y a plus de monde moral. Dès qu'il n'a plus foi en sa mère, il n'a plus foi en rien. C'est une vie découragée à jamais. Ah ! Si les femmes pouvaient voir ce qui se passe dans le cœur d'un malheureux fils, au moment où il vient à apprendre, à soupçonner que sa mère... »
Monsieur de Lerne s'arrêta tout à coup, et sa voix s'étrangla dans un sanglot. Il fit le geste d'un homme désespéré de ne pouvoir maîtriser son émotion, détourna la tête et couvrit ses yeux de sa main.
Jeanne avait entendu parler, comme tout le monde, de la jeunesse très légère de la comtesse de Lerne. Elle comprit. Il y eut une minute de pénible silence. Puis, Madame de Montrescan quitta brusquement son fauteuil, s'avança de deux pas et tendit la main au jeune homme. Il s'était levé. Leurs yeux se rencontrèrent. Il serra fortement la main qu'elle lui présentait, la salua et sortit. À la suite de ce brusque départ, Madame de Montrescan demeura un instant immobile, fit quelques pas incertains dans le salon, puis se laissa tomber sur une causeuse. Elle s'y ensevelit dans une rêverie profonde, soutenant d'une main sa belle tête brune et essuyant de l'autre par intervalles les pleurs qui coulaient lentement de ses yeux. Pourquoi pleurait-elle? Dans le trouble où cette scène l'avait laissée, elle ne le savait pas elle-même. Le son du timbre dans le vestibule lui fit tout à coup froncer le sourcil. Quelques secondes après, la porte s'ouvrit, et un domestique introduisit Monsieur de Montédin. « J'ai su par Montrescan que vous restiez chez vous ce soir, et je me suis hasardé. »«
C'est aimable, chauffez-vous donc. »
Un coup d'œil avait suffi à Monsieur de Montédin pour constater que Jeanne venait de pleurer. Ce n'était pas la première fois de sa vie qu'il surprenait un symptôme de ce genre chez une jeune femme abandonnée de son mari. Et il avait coutume, non sans raison, d'en tirer un augure favorable à ses prétentions personnelles. Il se trouvait précisément que le baron de Montrescan, désertant le corps de ballet, venait d'afficher sa liaison avec une écuyère américaine, Diana Gray, dont l'apparition au cirque d'hiver avait été un des événements de la saison.
On la voyait, depuis quelques jours, conduire dans l'allée des acacias une paire de chevaux noirs dont personne n'ignorait la provenance. Monsieur de Montélin eut tout lieu de penser que cette circonstance n'était pas sans quelque rapport secret avec les dispositions mélancoliques où il rencontrait madame de Morescan. Le sobriquet grotesque dont Jacques Delerne avait affublé monsieur de Montélin a pu jeter sur ce personnage, aux yeux du lecteur, une teinte de ridicule qu'il ne justifiait nullement. C'était en réalité un séducteur fort sérieux et fort dangereux. Il avait auprès des femmes le prestige singulier des hommes à bonne fortune, et il leur paraissait plus honorable d'être déshonoré par lui que par un autre. Il était bien fait, de haute mine et brave. Sans avoir ce qu'on appelle de l'esprit, il avait, à force d'application et de goût pour son métier, acquis une habileté redoutable à deviner les occasions et à les saisir. Il savait mieux que personne qu'il y a, dans la vie des femmes, des heures d'énervement et de dépression morale, des heures, pour ainsi dire, sans défense, dont un homme pénétrant et hardi peut tirer de terribles avantages. C'est ainsi qu'on s'explique d'ailleurs que des femmes distinguées deviennent quelquefois la proie de la plus vulgaire galanterie. Monsieur de Montélin, dans sa stratégie savante autour de madame de Morescan, attendait depuis longtemps cette heure fatale avec une patience et une assiduité félines. Il jugea qu'elle était arrivée. Après quelques minutes d'une conversation banale à laquelle madame de Morescan prenait une part distraite et languissante, il rapprocha sa chaise de la causeuse où elle était étendue. « Vous m'écoutez à peine, dit-il. Qu'avez-vous donc ?
Rien.
Vous avez pleuré ?
C'est possible.
Ne suis-je pas un assez vieil ami pour recevoir la confidence de vos chagrins ?
Je n'ai pas de chagrin, je ne sais pas ce que j'ai. »
Il lui prit doucement les mains et s'approcha plus près, en la regardant fixement dans les yeux. « Ma pauvre enfant, dit-il à demi-voix, si vous saviez comme je vous aime !» Elle sentit que le bras de monsieur de Montélin l'enlaçait. Elle parut s'éveiller d'un songe, se dressa et le repoussant brusquement, « Ah ! Mon pauvre monsieur !» s'écria-t-elle. « Si vous saviez comme vous tombez mal !» Il n'y avait pas à se méprendre sur l'accent de sa voix ni sur l'expression de son visage. Le sentiment qui l'animait était clairement celui du dédain le plus froid et le plus impitoyable. Monsieur de Montélin dut reconnaître que pour cette fois, son flair avait été en défaut. Il ne lui restait qu'à faire une retraite honorable.
« Je crois, dit-il avec hauteur, que le comte de Lerne sort d'ici.
Allons, il prend sa revanche. C'est de bonne guerre. » Il saisit son chapeau, s'inclina profondément et gagna la porte. Jeanne, demeurée seule, se rendit compte pour la première fois du danger réel et odieux qu'elle avait couru presque inconsciemment. Elle sentit que, quelques jours, quelques heures peut-être auparavant, par découragement, par insouciance d'elle-même, elle eût pu devenir, sans amour, sans amitié, sans excuse, la victime inerte et stupide d'un plat libertin. Elle sentit combien elle avait été près de ce misérable abîme, et combien tout à coup elle en était loin. Elle comprit alors que les larmes qu'elle venait de verser étaient des larmes heureuses. Prise d'une sorte de transport joyeux, la chère créature repoussa soudain de ses deux mains sur son front la masse épaisse de ses cheveux et murmura « Je suis sauvée !»